Je vais parler du monnayage danois au 8e, 11e siècle. Contrairement à ce qu'a suggéré Gareth à l'instant, malheureusement, je ne vais pas parler vraiment du monnayage normand. J'ai parlé de ça il y a quelques années à Bayeux, dans un colloque, où on peut voir ce qu'avait suggéré Gareth, le monnayage normand au moment de Guillaume le Conquérant. Je renvoie donc aux actes de ce beau colloque il y a quelques années à Bayeux pour cet aspect-là. Aujourd'hui, je vais parler du monnayage danois. Donc, comme vient de dire Jean-Marie, je suis du Musée national de Copenhague, mais en ce moment, j'ai la chance d'avoir une bourse, le Studium, pour travailler sur le monnayage normand, justement, au Xe siècle. Donc, décidément, on tourne autour du monnayage normand, même si aujourd'hui, je vais parler du monnayage danois. Donc, je suis au tout début de ma bourse à Orléans, donc j'ai pas encore les résultats, mais je pense que si mes hypothèses de travail vont tenir à la lumière des documents que je vais étudier, mon travail va prouver que les Vikings étaient très aptes à s'adapter au modèle franc qu'ils ont rencontré en Normandie, qu'ils se sont très très vite assimilés aux sociétés franques, du moins en ce qui concerne l'organisation du monnayage. Mais bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui, c'est le monnayage danois. J'aurais peut-être dû dire les monnaies au Danemark plutôt, parce qu'on va parler aussi bien de la fabrication de la monnaie, chose importante, mais aussi l'utilisation de la monnaie, c'est pas toujours la même chose. On peut fabriquer des monnaies dans un pays selon un certain modèle, et on peut aussi utiliser des monnaies, aussi bien ses propres monnaies nationales ou locales, et des monnaies étrangères. On va voir des exemples de ça. La fabrication, le monnayage, c'est une institution très très officielle. La monnaie est un objet officiel. Vous voyez ici une gravure du XVIe siècle où on voit en premier plan la fabrication de la monnaie, mais ce qui est aussi important, c'est qu'on voit en arrière-plan qu'il y a des comptes très très précis tenus, parce que c'est une institution officielle. Et vous voyez pour qui a été fait la monnaie, c'est pour le prince. Ici, vous voyez le jeune Charles Quint, qui apprend des choses sur le monnayage, mais en même temps est le maître le prince est le maître du monnayage. C'est très important à retenir. C'était probablement la même chose quand on revient à l'époque qui nous intéresse ici. C'est important de se dire que, bon, là, on parle de transfert culturel, donc il faut voir le point de départ. C'est le modèle franc et anglo-saxon, le modèle de l'Europe de l'Ouest, qui va être mis en perspective vis-à-vis de comment on utilise la monnaie en Scandinavie dans cette présentation. Donc, le monnayage, c'est la prérogative du pouvoir, c'est un droit régalien, c'est le prince vraiment qui gère la monnaie, c'est un objet officiel. C'est très important de se souvenir de ça, que c'est le modèle européen que les Scandinaves vont rencontrer. Il y a des revenus liés à l'échange, on va en parler un peu plus ultérieurement. Quand on frappe la monnaie, ça contient de l'argent métal, donc ça a une valeur propre, mais la valeur pour laquelle la monnaie est mise est légèrement supérieure à sa valeur métallique, et donc il y a une différence là qui en grande partie est du revenu qui va au prince mettre de la monnaie. Et donc, il y a aussi l'aspect de l'iconographie de la monnaie, la propagande, le moyen de propagande fabuleux qui va dans tous les coins, tous les coins les plus reculés de la société. Donc, voilà un bon exemple de ça, Charlemagne, en empereur romain, avec l'inscription Carolus Imp Hoc, donc Imperator Augustus. Donc vraiment, vous voyez là l'aspect, bon là on a le prince, là on a l'aspect iconographie de propagande de l'image impériale, et en même temps on a sur le revers le Christiana Religio, les premières quatre lettres en lettres grecques, le reste en lettres latines, avec le temple chrétien, avec la croix en première place. Donc vous voyez là vraiment la monnaie dans toute sa splendeur, le prince, l'aspect propagande, l'aspect officiel de l'objet. L'utilisation, c'est tout autre chose, c'est les gens, bon, les utilisateurs. Là, je n'avais pas d'image de personnes à l'époque viking qui manipulent la monnaie, donc j'ai pris une image légèrement postérieure ici, où vous voyez cette dame qui est très intéressée par la monnaie. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est comment les gens utilisaient la monnaie. Donc c'est clair, si on revient au modèle franc ou anglo-saxon, c'est que, comme je viens de dire, ou viens de suggérer, c'est que la monnaie était utilisée à la pièce, donc la monnaie avait une valeur libératoire convenue. Une pièce d'un denier valait un denier. On pouvait payer avec la monnaie pour le prix d'un denier. Si on devait payer 5 deniers, on donnait 5 pièces. C'était très simple, ça nous semble bien sûr tout à fait normal, mais à l'époque, c'était pas la seule manière de faire. Exclusion des monnaies étrangères. Bon, premièrement, quelle serait la valeur libératoire des monnaies étrangères? On ne savait pas trop, donc pour des raisons pratiques, il valait mieux les exclure. Mais c'est aussi là où intervient l'échange, qu'il fallait échanger ces monnaies étrangères contre des monnaies locales, en payant bien sûr ce surcoût, ce frais d'échange qui était des revenus pour le prince. Et très souvent, aussi dans l'Europe de l'Ouest, il y avait exclusion des monnaies anciennes. De temps en temps, on rendait caduques les monnaies anciennes en circulation et on devait les échanger, encore une fois, contre des frais d'échange, bien sûr, pour le prince. Donc voilà pour le modèle anglo-saxon et franc, et ça donne ce genre de trésor, un petit trésor de 4 pièces, peut-être une bourse, qui a été trouvée à la cathédrale de Francfort, où vous voyez, c'est que des monnaies de Louis le Pieux, que des monnaies locales, que des monnaies récentes, donc aucune monnaie étrangère, aucune monnaie ancienne. Donc tout à fait un système bien maîtrisé, le modèle ouest-européen. Donc, en Scandinavie, il faut savoir que la monnaie était relativement commune à l'époque romaine, ce qu'on appelle l'âge de fer romain en Scandinavie. À l'âge de fer germanique, au début, on continuait à utiliser les monnaies romaines, c'est ce qui correspond à l'époque mérovingienne en France. À la fin de l'époque mérovingienne, il y avait quasiment plus de monnaie en Scandinavie. Il y avait un siècle ou deux où il n'y avait quasiment pas de monnaie, et donc au 8e siècle, les monnaies refont apparition dans la ville de Ribe, qui se situe dans le sud-ouest du Danemark, près de la mer du Nord, vous voyez sur la carte. Les archéologues ont mis en évidence une place marchande, très importante là, très organisée, avec une rue, avec des parcelles où il y avait des activités commerciales et artisanales, donnant sur la rivière où on pouvait probablement accoster avec les bateaux, on est à peu de distance par rapport à la mer. Et là, arrive au 8e siècle, à une période où il n'y avait quasiment aucune monnaie par ailleurs en Scandinavie, on trouve énormément de ces petites pièces, 12, 13, 14 millimètres de diamètre, 1 gramme à peu près, un peu moins peut-être, avec ce qu'on appelait, les chercheurs ont appelé le Wooden Monster, donc le dieu Odin sur une une face et un monstre sur l'autre. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est interprétation, mais c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. À Ribes, on a trouvé plus que 200 pièces de ce type. Ce qui est important, c'est qu'elles ont été trouvées sur les quelques fouilles qu'il y a eu à Ribes. Elles sont trouvées une par une. Les fouilles représentent peut-être 100% quelques pourcents de toute cette place marchande. Donc je viens de vous montrer la restitution. 200 pièces là, ça trouvées une par une, si on multiplie par toutes les surfaces pas encore fouillées ou détruites par les travaux ultérieurs, on arrive à un nombre considérable de monnaies qui étaient en circulation. Je souligne encore une fois qu'elles ont été trouvées une par une sur les parcelles de activités commerciales et artisanales, donc vraiment une utilisation de la monnaie au quotidien assez fréquente. Les monnaies sont quasiment tous à 95% à peu près du même type, donc une circulation bien régulée où on exclut les autres monnaies. Et les monnaies sont entières. Bon, ça nous semble normal, mais on va voir à l'instant que c'est pas si normal que ça quand on parle l'époque viking en Scandinavie. Donc, ça nous fait dire que à Ribes, il y avait un monnayage vraiment organisé selon le modèle ouest européen, déjà au 8e siècle. Utilisation à la pièce, utilisation avec une valeur libératoire convenue, monnayage probablement frappé sur place, c'est encore un peu débattu. Certains pensent que ces monnaies-là étaient frappées en frise, mais il y a de plus en plus de numismates qui acceptent l'idée que ça a été frappé localement à Ribes. Très bien organisé, frappe de monnaie, utilisation de la monnaie au 8e siècle à Ribes selon le modèle vraiment ouest européen. Vous voyez là les quelques découvertes. Bon, c'est une carte ancienne qui n'est pas du tout mise à jour, mais ça donne les grandes lignes de la répartition de ce type de monnaie. Il y en a relativement peu. Faut dire que la plupart des points sur cette carte, hormis Ribes, représentent une ou deux ou trois monnaies. Donc Ribes, c'est plus que 200. En revanche, ce type de monnayage est très, très, très utilisé en Frise, en l'actuelle Hollande et aussi en Angleterre. Donc c'est de là qui vient l'idée. Et on peut imaginer que cette place tout à fait exceptionnelle, une enclave organisée selon pour faire du commerce et distincte du reste de la société, a adopté aussi, bon, déjà organisée différemment pour abriter le commerce, a aussi adopté ce modèle qui venait de l'étranger parce que les personnes qui œuvraient là étaient largement ouvertes sur le commerce vers l'Angleterre, vers l'actuelle Hollande, l'actuelle Pays-Bas. Ça, c'est vraiment un modèle quasiment emporté tout pièce et installé dans une tout petite enclave. On peut dire à peu près la même chose, mais avec quelques nuances, pour Haithabu, Hedeby, un siècle plus tard. Donc voilà le site avec le rempart autour de la ville commerciale. C'est dans l'extrême sud du Danemark et c'est très important de voir que c'est vraiment à la jonction entre le Danemark à l'époque, l'Empire franc et les Slaves. Aujourd'hui, ça fait partie du nord de l'Allemagne, mais à l'époque viking, c'était la majorité du temps dépendait du royaume du Danemark. Était une place commerciale, une enclave commerciale où on pouvait faire du commerce à la frontière entre plusieurs aires culturelles, plusieurs entités politiques. Là, on voit que on a fait des imitations de monnaies de Charlemagne. Vous voyez une monnaie de Charlemagne sur la gauche, Carolus, vous devinez certainement, et de l'autre côté, il y a le DOR en haut, un peu, bon, le D et le R un peu déformés, mais on le voit quand même, et le Stadt au milieu, STAT, le A un peu bon, en forme de presque carré, et avec l'H en bas. Donc ça, c'est la monnaie de Charlemagne frappée à Dorstadt dans le delta du Rhin dans l'actuelle Hollande. Et vous voyez qu'à Haithabou, on a fait des copies de cette monnaie et vous voyez que petit à petit, ces copies s'affranchissent du modèle. Mais ça reste quand même des copies de ce monnayage et il y a eu quelques fantaisies encore pour ce monnayage au IXe siècle. Vous voyez par exemple sous le numéro 2 comment le TAT de Dorestadt devient la porte et les colonnes qui soutiennent le toit d'une maison. Donc là, il y a une adaptation. Il y a aussi des motifs autres qui interviennent comme les bateaux et les coques, etc. Donc, mais c'était quand même la monnaie au type de Charlemagne, Dorestadt, qui était dominant. Là, vous voyez un modèle un siècle plus tard, au milieu du Xe siècle. Ce monnayage a duré un siècle et demi. Et vous voyez que, bon, je ne sais pas si le graveur de coins qui a préparé les coins pour cette monnaie se rendait compte que c'était véritablement le nom de Charlemagne et de Dorestadt qu'il gravait. Mais quand on voit la filiation, on voit que c'est le modèle qui se poursuit. Ce monnayage était devenu, comme vous le voyez, un peu bon, primitif dans le style. Là, c'était une monnaie très fine où on voit le motif d'une face qui transperce de l'autre face parce que c'est une monnaie très fine. Et justement, notre ami Harald à la dent bleue, donc N, vient de parler, a réformé ce monnayage à Haithabou. Ces monnaies avec les croix, donc modèle de propagande pour la nouvelle foi que Harald a adoptée, ça, c'est le même taille, le même flanc très fin qui laisse apparaître l'autre face, mais la gravure est plus soignée et surtout utilisée pour des fins de propagande pour la nouvelle foi. Donc on voit très clairement le roi là-dedans. À Haithabou, il y a eu environ 400 pièces de trouvées. Il y a plusieurs trésors dans les environs immédiats. On voit une grande partie de monnaie locale entière, non coupée, etc., qui montre certains trésors uniquement composés de ces monnaies, qui montrent qu'il y a eu à Haithabou une utilisation à la pièce. Pièce au singulier, excuse-moi. Mais il y a aussi à Haithabou des monnaies étrangères, des monnaies islamiques et plus tard des monnaies allemandes et anglaises qui montrent qu'on a aussi utilisé les monnaies au poids. Je reviens à ce concept à l'instant. Et donc, on voit là à Haithabou ce que les chercheurs anglo-saxons ont appelé un « dual economy », donc le modèle européen avec les monnaies utilisées à la pièce, bien organisées, bien gérées, et en même temps, un autre modèle qu'on va voir tout de suite, parce que là, on va quitter ces deux enclaves, Ribe et Haithabou, pour regarder le reste du Danemark à l'époque viking. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de pièces trouvées. Ici, c'est les statistiques pour toute la région baltique, et j'ai souligné les chiffres qui correspondent au Danemark en haut et le chiffre global pour toute la région baltique en bas. Vous voyez qu'il y a, c'est des chiffres déjà un peu anciens, mais presque 8000 monnaies islamiques au Danemark. Là, on parle de, du Danemark au sens large de l'époque viking, en incluant entre autres le sud de la Suède actuelle. Il y a presque 30 000 monnaies allemandes, il y a plus que 15 000 monnaies anglaises et le restant pour arriver au, au chiffre total de 70 000 pièces, c'est les pièces, ce sont des pièces locales et d'autres origines. Donc, c'est des pièces, bien sûr, qui viennent en Scandinavie par les, par tous les voyages des Vikings, donc Gareth a déjà parlé. Au début, au 9e, 10e siècle, c'est surtout des monnaies islamiques. Bon, contrairement à ce que vient de dire Gareth, je pense qu'une bonne partie de ces monnaies vient par voie indirecte, par des intermédiaires, les Volga Bulgares, les Khazars, les Russes. Je suis sûr que Gareth est d'accord s'il avait eu le temps d'aller dans le détail. Et c'est sûr aussi qu'il y a eu des contacts directs entre les Vikings et les, le Moyen-Orient et l'Asie centrale islamique, mais ce n'est pas le seul moyen ou le seul voie de, par laquelle ces, ces monnaies sont arrivées. Je pense qu'on est, on est d'accord. Oui. Donc, et ces monnaies arrivent en très très grand nombre donc de l'Asie centrale où il y a des mines. Arrivent, comme je viens de le dire, par les Khazars, les Volga Bulgares, les Russes, par l'actuelle Russie, Ukraine. C'est les mines fabuleuses d'Ouzbékistan et d'Afghanistan actuelles qui fournissent la matière pour ces, ces arrivages. Après, à la fin du Xe siècle, ce flot de monnaie s'arrête. En revanche, les monnaies allemandes et anglaises qui arrivent à la fin du Xe siècle et au XIe siècle parce qu'il y a les grandes mines, surtout du Harz, qui fournit du métal, de l'argent, pour alimenter ce flot. Donc là, je l'ai déjà dit, on utilise la monnaie à la pièce en l'Europe de l'Ouest et au poids dans les pays baltiques. Au poids, donc ça veut dire qu'on trouve énormément de balances et des poids dans les fouilles en Scandinavie et dans la région baltique. Je vais montrer un exemple, le trésor de Krisebjergård du milieu du Xe siècle. Il y avait environ 1200 monnaies. Environ 1100 monnaies islamiques, une douzaine de monnaies danoises, 14 anglo-saxonnes, 70 monnaies continentales de l'actuelle Belgique, et, nord de la France et la région du Rhin, une 12 européennes indéterminées, tout simplement parce que c'est des petits fragments qu'on n'arrive pas à identifier. Les monnaies sont justement fragmentées, pliées, fragmentées parce qu'on les utilise au poids, donc pour faire la pointe, on les fragmente, pliées pour tester le métal et parfois pour les fragmenter aussi, par pliure. Il y avait des lingots et des bijoux aussi fragmentés parce qu'on utilisait la monnaie au même titre que les bijoux et les lingots comme métal au poids. Autre exemple, il n'y a pas que les trésors, il y a aussi des sites comme ici, à Hausmarken, à la petite île de Ærø au sud du Danemark, où on a trouvé énormément de pièces, plusieurs centaines de pièces, mais éparpillées cette fois-ci, donc utilisées pour le commerce, mais c'est des pièces qui ont été utilisées aussi au poids, parce que fragmentées, pliées et testées. Vous voyez peut-être sur l'écran qu'il y a des petites rayures sur les monnaies, c'est parce qu'on a pris un couteau pour les tester. Si le métal est mou, c'est du bon argent. Si le métal craque un peu, c'est qu'il y a trop de cuivre dedans. Donc voilà, pour résumer ces deux modèles, si on a un système avec des monnaies à la pièce, on a des trésors ou des trouvailles de sites où il y a exclusivement des monnaies entières, des monnaies nationales, des monnaies récentes et des monnaies qui ne sont pas testées. Si on les coupe, si on les teste, etc., on les rend caduques, les gens ne veulent plus les accepter, donc c'est un très mauvais plan. En revanche, dans la région baltique, il y a monnaie, bijoux, lingots, fragments, etc., mélangés. Origine variée, âge varié, les monnaies sont testées par coup de couteau, par pliure, et il y a aussi des découvertes de balance et de poids. Donc, on utilise aussi les monnaies comme bijoux. Vous voyez là avec une belle monture, une autre, là, une monnaie carolingienne utilisée comme bijoux. Et ce qui est bien, c'est que si ce genre de bijoux passe de mode, comme c'est de l'argent, on peut le réutiliser comme moyen de paiement après, au titre d'autres objets de métalliques. Donc ça peut faire des va-et-vient entre l'utilisation comme bijoux et l'utilisation comme moyen de paiement. Là, je passe un peu plus dans l'interprétation. Pour moi, cette monnaie à gauche, ça a dû avoir un pouvoir symbolique. C'est une monnaie carolingienne avec la croix. Donc, est-ce qu'on a voulu détruire le pouvoir que cette monnaie transformée en bijoux, amulette, avait représentant la foi chrétienne avec la croix, le pouvoir impérial avec le nom de Louis le Pieux? C'est du moins une hypothèse qui montre, si ça s'avère correct, qu'il y avait vraiment un pouvoir, symbolique considéré pour ces pièces-là. Là, très rapidement, sur le site de Tisseux, on voit que les monnaies islamiques à droite sont trouvées un peu partout, entre autres dans le sud du site où il y avait du commerce et de l'artisanat, tandis que les monnaies carolingiennes et les monnaies nordiques sont surtout trouvées près du manoir et sur l'aire de culte au milieu du site. Donc vraiment, peut-être les monnaies nordiques et carolingiennes avaient un pouvoir symbolique, une utilisation privilégiée dans des sites privilégiés, tandis que les monnaies islamiques étaient utilisées tout simplement pour des moyens de paiement. Bon, le clivage n'est pas aussi clair, il y a aussi des monnaies carolingiennes et nordiques qui ont été utilisées pour le paiement, mais du moins sur ce site-là, il semble avoir eu une utilisation différenciée. Il y a très peu de tombes avec des monnaies au Danemark, mais il y a quelques exemples, et en Norvège et en Suède, c'est beaucoup plus fréquent. Et bien sûr, les monnaies servaient comme matière première pour l'orfèvre. Ici, il y a un petit morceau d'argent à moitié fondu, et vous voyez en premier plan au milieu agrandi un petit bout d'un dirhem qui est en train d'être fondu pour servir comme matière première pour l'orfèvre. Monnaie utilisée pour propagande. Les découvertes de monnaie à la croix de Harald à la dent bleue sont souvent sur des sites privilégiés, des sites d'élite. Donc, est-ce qu'il s'est servi de ces monnaies pour donner comme cadeau, pour faire des alliances avec les grands du royaume? C'est du moins ce qu'on peut penser. On a déjà vu la pierre de Yelling érigée par Harald pour commémorer ces faits, et c'était un roi qui a construit aussi les forteresses circulaires et beaucoup d'autres choses, donc un roi vraiment qui avait beaucoup de pouvoir à la fin du Xe siècle. Après cet épisode, il y a eu une période vers l'extrême fin du Xe siècle et au début du XIe siècle où les monnaies scandinaves étaient plutôt des imitations des monnaies, surtout des monnaies anglo-saxonnes, mais aussi d'autres modèles byzantins et allemands. Vous voyez en haut une monnaie de Ethelred vers l'an 1000, une monnaie anglaise, donc le prototype, et en bas l'imitation scandinave qui n'est pas du tout aussi belle. Déjà, il y a une autre. On a mélangé le droit d'un autre type, comme vous voyez, et le revers est beaucoup plus primitif. Et ce qui était une légende tout à fait lisible sur la monnaie anglaise est devenu une suite de simili-lettres sur l'imitation scandinave. Donc là, vraiment, on peut dire qu'ils ont été inspirés des monnaies anglaises, mais vraiment. Sans avoir tout le modèle culturel, c'est juste la forme et pas du tout l'utilisation et la fonction. En revanche, à partir du milieu du XIe siècle, le monnayage scandinave s'affranchit iconographiquement du modèle anglo-saxon. En revanche, le modèle culturel est adopté. On a un monnayage organisé maintenant. Vous voyez l'inscription Harald Rex, c'est Harald Hen, dans la deuxième moitié du XIe siècle. Et sur le revers, comme sur les monnaies anglaises de la même époque, on voit le nom du monnayeur responsable du monnayage et le nom de ville où ça a été frappé, Lund, donc Lund dans l'actuel sud de la Suède. Mais à l'époque, ça faisait partie du Danemark. Et pour finir, un petit trésor trouvé dans la ville de Schleswig, là où est la flèche, et c'est une vingtaine de monnaies, tout sauf une du même type, tout entière, pas pliée, pas coupée, pas testée. Donc là, vraiment, le modèle européen, ouest-européen, a été adopté pleinement. On a un monnayage local qui sert à l'exclusion des monnaies étrangères. Il n'y a pas une seule monnaie étrangère dans ce trésor. J'aurais pu prendre des dizaines et des dizaines d'autres exemples de cette période-là qui montrent la même chose. Il n'y a pas de monnaie ancienne, donc on a aussi fait l'exclusion des monnaies anciennes, donc vraiment un monnayage géré selon le modèle européen à cette fin du XIe siècle au Danemark. Donc pour conclure, ce qui est en vert là, c'est là où on fait la fabrication selon le modèle européen, donc bien géré, avec sous le contrôle du roi, l'iconographie contrôlée, etc., ou sous le contrôle d'un pouvoir, du moins. À Haithabou et à Ribe, déjà au 8e, 9e, 9e, 10e siècle, c'était dans ces petites enclaves, je souligne, j'insiste, c'était vraiment bien géré, tandis que dans le reste du Danemark, au départ, il n'y avait pas de monnayage du tout. Vers l'an 1000, quand on commence à avoir un monnayage hormis les villes de Ribe et Haithabou, c'est selon des modèles anglo-saxons parce qu'on copie la monnaie anglaise, comme je viens de vous dire, mais l'organisation, la rigueur iconographique, le contrôle du monnayage n'est pas tout le même que dans le. Donc, comme ailleurs, comme en Europe de l'Ouest, donc c'est une adaptation scandinave. Mais à la fin du siècle, au milieu du XIe siècle, on s'adapte au modèle ouest européen. Pour l'utilisation de la pièce, comment on l'utilise? Bon, c'est un peu la même chose. À Ribe, c'était vraiment utilisé à la pièce, comme on fait en Europe, tandis qu'à Haithabou, on avait le dual economy, donc je venais de vous parler, où on avait les deux systèmes l'européen où on utilise les monnaies à la pièce et ce qui se développait entre-temps en pays baltique, dans les régions baltiques, au poids, tandis que dans le reste du Danemark, c'est vraiment, on utilise les monnaies au poids si on les utilise pour des paiements, et sinon les monnaies ont une valeur symbolique comme bijoux, etc. aussi. Donc vraiment un système très différent pour quand même, encore une fois, au milieu du XIe siècle, arriver au modèle européen. Et donc juste pour résumer les deux approches, utilisation et frappe dans une même diapo, voilà la synthèse. Je vous remercie de votre attention.